à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien.
À Dieu. Aujourd'hui, on va continuer, si vous voulez, la deuxième partie dont on a parlé du paradis. Pas dimanche passé, mais dimanche d'avant. Et je ne voulais pas tout pacter dans une prédication. On a la deuxième partie aujourd'hui. Et nous avons déjà parlé de la souveraineté de Dieu. Que le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Qu'on ne peut pas ajouter ou enlever le temps fixé par Dieu sur nos vies, absolument pas. Que Dieu a un plan pour chaque individu. Que la mort est une transition entre ce monde et le paradis. Que mourir pour le chrétien est un gain, comme dit l'apôtre Paul. Que nous allons recevoir un nouveau corps incorruptible à l'enlèvement. Alors, on a touché ces points-là il y a quelques semaines, et nous allons regarder, Dieu voulant, ce matin, un petit peu concernant le tribunal de Christ, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la cité de Dieu, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, et l'arbre de vie ce matin. Êtes-vous prêtes? Amen. Seigneur, merci pour ta merveilleuse présence. Merci que tu nous fais du bien. Et je sais que tu vas continuer à nous faire du bien maintenant parce que ta parole est ouverte. Ouvre nos oreilles spirituelles et nos cœurs afin qu'on puisse recevoir encore cette merveilleuse parole qui nous bâtit, qui nous encourage, qui nous fortifie dans notre intérieur. Fais-le, Seigneur, dans chaque personne en ce lieu ce matin, au nom de Jésus. Amen. Dites à votre voisin, ce matin, il va te bénir encore. Hein? Oui, oui. Vous dites, vous répondez, j'ai déjà été béni. Mais Dieu, vous allez être béni encore. Dieu n'a pas fini d'agir. Amen. Durant le 19e siècle, hein, un joke que j'ai manqué. J'ai de la misère avec, hein, comme vous savez. Durant le 19e siècle, un touriste américain visite un rabbin à Jérusalem. Il est surpris que la demeure du rabbin est une simple pièce remplie de livres et une petite table et un banc, et c'est tout. L'Américain lui demande, « Rabbin, où sont tes meubles? » Le rabbin répond, « Où sont les siens? » « Les miens? » répond l'Américain perplexe. « Mais je suis seulement un visiteur ici. Je suis que de passage. »« Moi aussi, » dit le rabbin. « Et nous sommes que de passage. » Amen. Êtes-vous heureux? Hein? Nous sommes que de passage. Je sais que des fois la vie est belle, mais souvent la vie n'est pas si belle que ça. Mais la vie va être belle. L'autre bord. Et nous sommes que passage, thank God que ça ne dure pas comme ça pour l'éternité. Alors, si on peut toucher, pour commencer, le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, et les gens lisent concernant le tribunal de Christ, par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, dit « Car il nous faut tous » en parlant de l'Église, en parlant des chrétiens, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. On va comparaître devant le tribunal de Christ. Ce verset donne l'idée, en réalité, d'une compétition sportive avec un haut placé assis sur un trône, élevé pour distribuer les récompenses aux courseurs. C'est ce qu'il faisait à cette époque-là à Rome. Et l'apôtre Paul le décrit et décrit les courseurs de ces jours qui recevaient particulièrement une couronne de victoire. Et alors, de même pour nous, nous allons recevoir certaines récompenses au tribunal de Christ. C'est ça que c'est, le tribunal de Christ. Nous allons recevoir ou pas recevoir certaines récompenses. Ceci n'est pas un trône de condamnation. Ce n'est pas un trône de condamnation parce que nous avons été pardonnés. Amen. Alors, mais c'est seulement un trône de jugement de nos œuvres. C'est un jugement de nos œuvres, le tribunal de Christ. C'est un jugement de qu'est-ce qu'on a fait ou pas fait dans ce monde avec le temps que Dieu nous a donné. Et Jésus va nous récompenser selon nos œuvres, selon qu'est-ce qu'on a fait au nom de Jésus-Christ. Le tribunal de Christ sera après l'enlèvement, vu que nous allons recevoir... nous allons revenir avec Jésus-Christ à sa seconde venue après la tribulation, les 7 ans de tribulation sur 7 ans. Nous allons revenir, l'Église va revenir avec Christ sur cette terre. Je vous donne un verset par exemple ici qui dit, en parlant des noces de l'agneau, de son épouse, Apocalypse 19 dit, « Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Alors, on va apparaître au tribunal de Christ avant de revenir, et après la tribulation, avant de revenir pour la seconde venue de Jésus-Christ. Et j'ai hâte. Avez-vous hâte? J'ai hâte à cela. Certains vont recevoir des grosses couronnes. Je suis sûr. Oh, ils vont recevoir tellement de récompenses. Il y en a d'autres peut-être qui vont recevoir, qui vont. Il y en a qui disent, « Ah, moi, je suis sauvé par la peau des dents. » Pas grand-chose au tribunal de Christ pour moi, mais Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, vous ne réalisez pas de la façon que Dieu vous a utilisé et comment est-ce que Dieu vous utilise, comment Dieu vous bénit. Bien sûr, on a des combats avec notre caractère, avec notre tempérament, mais au travers de tout cela, Dieu agit. Et Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Des fois, on voit sa gloire. Et des fois, on ne la voit pas. Mais il est là. Et il va nous récompenser selon ce que nous avons fait. Alors, ce n'est pas un tribunal de condamnation. Il y a également les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Question, est-ce que vous souvenez le jour où vous avez déménagé dans votre première maison ou votre premier appartement? Souvenez-vous de ça, je sais, pour nous autres, quand on s'est mariés, on a déménagé dans notre premier appartement. C'était une chambre à coucher, un petit salon, petit, avec une cuisine. That's it. C'est qu'est-ce qu'on avait avec la salle de bain. C'est tout qu'est-ce qu'on avait. Mais on était heureux. Parce que c'était notre appartement. Et puis, on a commencé à vivre notre vie ensemble, avec les trois, moi, mon épouse et le Seigneur. Et puis, la première fois qu'on a acheté une maison, on se souviendra toujours le jour de ce qu'on a acheté, notre première maison. On était tellement excités de déménager. Ma femme avait tellement hâte de commencer à décorer et puis préparer son nid, sa maison. Sans doute, nous serons excités d'entrer dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons nous souvenir de ce déménagement pour le restant de l'éternité, j'en suis sûr. On n'oubliera pas de la façon que nous avons entré, de la façon que le Seigneur nous a appelés, et comment est-ce que ça a été tellement glorieux, et on va se souvenir de ça, on n'oubliera jamais, je crois, le fait qu'on a entré dans notre nouvelle demeure. Jésus a dit, je vais vous préparer une place, on va rentrer dans cette place, et on va sans doute se réjouir. Alors, de la même façon qu'on se souvient dans notre vie présente, la première fois qu'on a déménagé dans notre maison, également, ça va être quelque chose de multiplié au centuple de qu'est-ce que nous allons nous réjouir ensemble. Ce que Dieu a créé pour les racheter durera pour l'éternité. Et de la même façon que le crucifié, vous vous rappelez, a crié sur la croix, « Tout est accompli » et on vient juste de célébrer sa mort et sa résurrection, il va en effet, dans Apocalypse 21, crier « C'est fait ! » !»« C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, c'est fait !» Et son royaume sera accompli. Nous pouvons, à ce moment-là, j'en suis sûr qu'on va crier « Glory, 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 gloire, gloire, gloire ». On vient de chanter « Fais-moi voir ta gloire ». Frères et sœurs, ce jour-là, on va crier « Glory, gloire », parce que nous serons dans la merveilleuse présence glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Ce jour-là, lorsque nous revenons et que le royaume de Dieu soit établi et que nous allons entrer dans le 1000 ans de paix sur cette terre, wow, nous allons célébrer même les arbres des champs battront des mains pour nous. J'ai hâte! Avez-vous hâte? J'ai hâte à ce que Dieu a préparé pour nous. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Il y a aussi la cité de Dieu ou la nouvelle Jérusalem. Selon le livre de l'Apocalypse, la place que Jésus a parlé, la place qu'il prépare pour nous, est en train de nous préparer présentement, est la nouvelle Jérusalem en réalité. C'est dans la nouvelle Jérusalem que nous allons vivre. Elle descendra sur la nouvelle terre. Et alors, la nouvelle Jérusalem, c'est notre place. C'est la place des rachetés. Et nous allons vivre là. Pas juste être obligés de rester là parce qu'il va y avoir du va-et-vient. Il va y avoir des œuvres à faire pour le Seigneur. Mais c'est la place, c'est notre demeure. L'homme et Dieu vont vivre ensemble. Wow! L'homme et Dieu vivent ensemble dans la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem s'installera sur la terre. Elle descend sur la terre. Et les rachetés de l'Éternel vivront dans cette cité de Dieu. Avec des résidences, il va avoir des résidences à votre goût. Non, excusez, pas votre goût, à son goût. Mais son goût est meilleur que votre goût. Et ça va être tellement merveilleux, il va avoir des modes de transport, puis ça ne sera pas des chars électriques, OK? Ça ne sera pas les automobiles, non, non. Ça, c'est la solution. Ils nous disent que c'est la solution, ce n'est pas la solution. Mais Dieu a la solution. Il va avoir des transports, des modes de transport. Il va avoir un gouvernement, le gouvernement, à la tête, c'est Christ. Et il va avoir des activités, il va avoir des occupations. Je ne sais pas si on va jouer au bingo ou non, là. J'en doute. Mais il va avoir des occupations, ce que notre cœur aime. Et nous allons être face à face avec Christ, c'est la chose la plus glorieuse, mais il va avoir des occupations et du travail à faire pour le Seigneur. Cette place sera tellement glorieuse, cette place sera tellement resplendissante qu'il est difficile de concevoir et le décrire. En réalité, Paul ne pouvait pas le décrire. Elle est construite de matériaux glorieux. Et on nous dit que les murs sont de jaspe et de l'or pur, semblable à du cristal de verre pur. Les rues sont faites d'or comme du verre transparent. Alors, ce n'est pas comme de l'or qu'on a découvert ici sur cette terre, c'est une nouvelle sorte d'or, transparent comme du verre. Et puis, du verre transparent. Alors, c'est une nouvelle sorte d'or, mais vous faites sûr que ça va être toute beauté. On nous parle des 12 portes de la Nouvelle Jérusalem. Les 12 portes sont faites de 12 perles et les fondements de pierres précieuses. Alors, on peut encore pas imaginer cela. Pas besoin. On nous dit pas besoin du soleil maintenant, pas besoin de la lune, car la gloire de Dieu est sa lumière, la lumière de la Nouvelle Jérusalem. Pas besoin de soleil. Moi, j'ai besoin de soleil. Hein? On a tellement besoin de soleil. On a une couple de jours où il n'y a pas de soleil, puis quand le soleil sort, ça nous fait tellement du bien. Ça change même notre humeur, ça change notre tempérament parce qu'on voit le soleil. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de soleil parce que Christ va briller dans toute sa gloire. Ça va changer notre tempérament pour l'éternité. Alléluia. L'expérience du ciel sera phénoménale. Selon 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, ça nous dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Amen. L'aimez-vous ce matin? Ce qu'il a préparé pour vous et moi, on ne peut même pas le concevoir. On peut regarder les Saintes Écritures et décrire un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit. Mais l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu les choses que Dieu, les choses que Christ a préparées pour ceux qui l'aiment. Une autre chose à contempler est la perfection de la place. Dans notre monde, l'environnement est imparfait, notre santé est imparfaite, la nourriture est imparfaite, nos relations sont loin d'être parfaites. Tout est imparfait. Mais au ciel, en ce temps-là, plus de péché, plus de malédiction, plus de démons, plus de relations brisées, plus de faim, plus de ténèbres, plus de crainte, plus de douleur, plus de souffrance, plus de pleurs, plus de mort. Ce sera, frères et sœurs, la nouvelle réalité. Hein? Il parle de ça dans la télévision, des fois, la nouvelle réalité. Ouais, attends une minute. Ça va être la nouvelle réalité et ça va être la vraie réalité. J'ai hâte! Avez-vous hâte? Amen! J'ai hâte à ce jour-là et que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Amen! Vous avez également l'arbre de vie. L'arbre de vie. Dans Apocalypse 22, 2, au milieu de la place de la ville et sur les deux bancs du fleuve, en parlant de la Nouvelle-Jérusalem, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. On parlait de ça la dernière fois avec les enfants. Cet arbre de vie, quelle était la première fois que nous avons lu dans sa parole à propos de l'arbre de vie? Vous le savez, hein? Dans Genèse. Dans le jardin d'Éden, on trouve l'arbre de vie. Et c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Parce que s'il aurait pris de l'arbre de vie, il aurait vécu dans le péché pour l'éternité, ce serait un enfer, un enfer sur terre. Mais ce n'est pas le cas. Et là, Dieu les a empêchés parce que Dieu avait un plan. Et Dieu était pour, il va ramener l'homme de ce qui était au début par sa croix. Alléluia. Alors, à ce moment-là, dans Genèse, ils ont perdu, Adam et Ève ont perdu le paradis. Ils ont été chassés du paradis. Aucun accès à l'arbre. Mais voici que dans le dernier livre de la Bible, bon, fast forward, dans l'Apocalypse maintenant, Genèse, ils ont été chassés, mais voici maintenant dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, le paradis est restauré. Alléluia! Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, a dit Jésus au brigand. Le paradis est restauré, accès restauré. Accès à l'arbre de vie est restauré. Pouvez-vous dire glory? Gloire à Dieu. J'ai hâte. Avez-vous hâte? À ce jour-là réservé pour vous et moi, lorsque nous allons reprendre. L'homme va prendre finalement de l'arbre de le fruit, de l'arbre de vie pour l'éternité. Alléluia. Ensuite, les feuilles, ça nous parle des feuilles de cet arbre qui servent à la guérison. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela ne veut pas dire qu'il va y avoir des malades qui ont besoin d'être guéris, car il n'y aura plus de choses semblables au ciel. Il n'y aura plus de maladies au ciel. Alors, ce n'est pas ça que ça veut dire. Cela veut plutôt dire la distribution de la santé. La distribution de la santé. C'est intéressant, lorsque vous regardez le mot grec pour guérison. Ici, c'est le mot grec est « thérapia ». « Thérapia », c'est de là qu'on prend notre mot « thérapie ». Ça veut dire « répandre la santé ». Répandre la santé. Prends du fruit. Répandre la santé. Alors, c'est ça qui va arriver, la guérison des nations, la guérison du peuple de Dieu, la guérison de votre cœur, la guérison de votre vie. Ça va être quelque chose qui va être distribué et qui va être répandu. Répandre la santé. Aujourd'hui, on voit les maladies sont répandues partout dans le monde entier, les virus, tout. Mais un jour, frères et sœurs, c'est la santé qui va être répandue. Amen. Hein? Avez-vous hâte? J'ai hâte! Amen! À ce jour-là, il n'y aura plus de péché, plus de deuil, plus de douleur, plus de larmes, plus de mort, et nous allons tous avoir l'expérience que nous avons aujourd'hui, c'est négatif, mais à ce jour-là, ce sera positif entièrement. Aujourd'hui, nous avons l'expérience de ces choses présentement. On peut goûter maintenant du péché, du deuil, des douleurs, des larmes, de la mort, tout ça. C'est avec nous aujourd'hui, on connaît tout ça, mais le jour s'en vient lorsque tout cela va disparaître. Pouf! Disparaître pour toujours. Pour toujours. Et que vous êtes gâtés. Notez la transition entre Genèse et l'Apocalypse. À cause de la chute d'Adam et Ève, nos parents, la mort, la souffrance, le deuil, le péché, les douleurs, les pleurs ont entré dans le monde. Ces choses-là ont entré, ont venu, ont été introduites dans le monde. Mais encore dans le dernier livre dans l'Apocalypse, toutes ces choses sont bannies maintenant. La malédiction est enlevée maintenant. Et Dieu fera toutes choses merveilleuses en son temps. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Et frères et sœurs, il le fera. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Alléluia. La question est souvent demandée, comment pourrons-nous avoir aucun deuil et aucune larme en sachant que certains de nos bien-aimés ne sont pas là? Comment se réjouir sachant qu'ils souffrent en enfer? Bonne question. C'est une question extrêmement difficile. Je ne sais pas la réponse. C'est une question difficile. Mais peut-être le Seigneur va enlever certaines mémoires de notre esprit. Peut-être. N'oublions pas que c'est un autre monde. C'est un monde dans l'éternité. Mais j'ai un verset pour vous quand même qui peut peut-être nous aider. Dans Ésaïe 65, verset 17, nous dit, « Car je vais créer, Dieu qui parle, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Amen. Et ça continue, réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem avec pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. on n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Amen. Alors, on ne sait pas comment, mais on sait que Dieu est Dieu. Et Dieu est capable de tout faire. Dieu fait l'impossible. Amen. Ce matin, c'était ça, sa parole qui nous parlait, que Dieu va faire l'impossible. Qu'est-ce que l'homme ne peut pas faire? Dieu va le faire. Bien, ça va être accompli. À ce moment-là, ça va être complètement, entièrement accompli. Et alors, il va enlever peut-être certaines choses de notre esprit. Pas toutes choses, par contre, cela ne veut pas dire qu'il va enlever toute mémoire du passé, spécialement les bonnes choses. On va se souvenir des bonnes choses, comme lorsque nous avons été sauvés. On va se souvenir sûrement de ça. Remarquez que Jésus, lorsqu'il a reçu son nouveau corps, qu'il a ressuscité d'entre les morts le troisième jour, vous allez remarquer que Jésus a retenu, n'est-ce pas, les marques dans ses mains, ses pieds, son côté. Il a retenu ces marques-là dans son corps, son nouveau corps, son corps ressuscité. Pourquoi? On ne sait pas pour certains, mais certainement que dans l'éternité, on n'oubliera pas la raison que nous sommes là. On ne l'oubliera pas, jamais. Parce que le Seigneur va être là et on va se souvenir de sa croix. On va se souvenir qu'il est l'agneau de Dieu qui a enlevé mon péché. Alléluia. Il y a un chant qui me vient à l'esprit qui dit, « Si j'oubliais Gethsémané, si j'oubliais ton agonie, si j'oubliais ton grand amour, conduis-moi au calvaire. » Je crois dans l'éternité, on va se souvenir la raison pour laquelle nous sommes là. Mais quelle est la chose la plus merveilleuse à propos du ciel? On peut parler de toutes ces choses-là qui sont inconcevables, qui sont glorieuses, mais la plus grande chose, naturellement, c'est de contempler Jésus face à face. Amen. Contempler Jésus face à face. Le psalmiste, lui, il crie, il pleure, il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu! Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Et ensuite, il pose la question, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Il a hâte d'être face à face avec son Sauveur, avec son Dieu. Au travers de l'histoire, Dieu a apparu à l'homme. Il a apparu à Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, le peuple dans le désert. Et même Jésus-Christ a devenu chair et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, mais il y a du meilleur qui s'en vient. Croyez-vous ça? Il y a encore du meilleur qui s'en vient. Et Jésus nous promet le paradis avec Christ, comme il a promis au brigand sur la croix. Ce n'est pas que le Seigneur va nous saluer de loin lorsqu'on va entrer dans le ciel ou qu'il va nous donner la main de bienvenue, la main de fraternité au ciel, puis ensuite dire, bon, ben, je vais t'occuper à d'autres choses, puis il va partir. Non, c'est pas ça. Non, nous, même on l'a chanté tantôt, qu'on a besoin de lui, on a besoin d'être serré dans ses bras. Nous allons nous réjouir de sa présence intime, une intimité avec le Seigneur. Et je ne sais pas si ce matin, des fois ma femme me dit, j'ai besoin d'une caresse. OK, je donne une caresse, elle a besoin d'une caresse. Des fois, on a besoin d'une caresse. On a besoin de la chair. On a besoin de quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui va nous caresser. Frères et sœurs, vous allez être caressés. Frères et sœurs, vous allez recevoir cette... Qu'est-ce que vous dites en Nouveau-Brunswick? Un crack? Hein? Ou une collade? Oui, le Seigneur va être là. Et il va... Oh! c'est quoi le sentiment? Le sentiment, c'est que tout le mal s'en va. Ah, toutes les blessures s'en vont. Tous les désappointements s'en vont. Toutes les choses qui vous ont brisé dans votre vie s'en vont. Avez-vous hâte? Hein? D'être serré dans les bras du Seigneur Jésus, ça va faire tellement du bien. Ça va vous faire tellement du bien de recevoir cela. Et alors, on a besoin de se réjouir. Alors, en vue de tout cela, la mort n'est pas une chose à craindre. La mort, pour nous, n'est pas une chose à craindre. Paul a dit que pour lui, c'était un gain, qu'il aimerait aller au ciel. OK, il va rester pour servir, pour continuer, pour aider l'Église, mais il veut vraiment aller au ciel. C'est un dilemme pour lui. Alors, nous irons immédiatement dans sa présence après notre mort. Et une chose qu'on n'a pas besoin de craindre, c'est de mourir. Je voulais mentionner également à propos des enfants. Les Écritures sont claires que la vie d'une personne débute à la conception dans le sein de la mère. Amen. C'est qu'est-ce que les Écritures nous enseignent? La vie débute à la conception dans le sein de la mère. Lorsqu'une fausse couche arrive ou un avortement se produit, l'esprit de cet enfant va directement au ciel. La Bible nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Il nous connaît chacun, même avant qu'on soit dans le sein de notre mère. Et alors, vous pouvez être rassuré que ceux qui ont fait des fausses couches, j'ai une personne qui est très proche de nous autres qui a fait une fausse couche. Ce n'est pas une fausse couche, c'est un, a perdu l'enfant à 9 mois dans son sein. Cet enfant-là, elle est rassurée qu'elle va, il va directement au ciel. Avant d'avoir Salomon, d'ailleurs, David et Bathsheba ont eu un bébé. Et le bébé, il est né, mais il est mort. Et David dit, « Puis-je le faire revenir? » Il dit, « Non, je ne peux pas le faire revenir. » Mais il dit, « J'irai vers lui. J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » David disait qu'un jour, il va voir ce bébé-là. Alors, les nourrissons et les jeunes enfants vont au ciel. Il y a d'autres enseignements qui nous disent que les bébés, ça va au limbe, ou ça flotte dans les airs à quelque part. Croyez pas ça. Non, non. Dieu connaît chacun de nous qui nous a tissés dans le sein de notre mère. Et alors, les jeunes enfants, les nourrissons vont directement avec le Seigneur. Les Écritures aussi enseignent qu'il y a un âge de responsabilité. Quel âge que c'est ça? Ça dépend de la personne, hein? Ça dépend de la maturité de la personne, de la croissance de la personne. Certains enfants prennent conscience du mal et du bien plus tôt que d'autres enfants. Jacques nous dit dans Jacques 4:17, ça nous aide un peu lorsque Jacques dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Non. Cet âge-là, cette compréhension-là va venir à différents âges dépendants d'un enfant. Mais pas besoin de craindre la mort. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu la mort. On peut appeler ça que c'est la mort de la mort. La mort de la mort. Parce que nous allons vivre pour l'éternité. Le psaume 23 dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Le Seigneur est non seulement avec nous au moment de notre mort, mais il est avec nous, mais il est avec nous durant le processus de la transition. Nous ne serons jamais seuls. Le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Jésus sera avec nous dans la vallée. dans la vallée. C'est notre espérance. Frères et sœurs, c'est l'espérance de l'Église. La façon dont nous utilisons nos courtes années sur la terre maintenant a de profondes implications pour l'au-delà. C'est pour ça que c'est important de se consacrer entièrement à lui. J'aimerais citer ce que Billy Graham a dit dans ses vieux jours. Billy Graham a dit ceci, « Plus nous prenons le ciel au sérieux, plus nous prendrons au sérieux nos responsabilités ici sur la terre. La vie est courte. Aucun de nous ne sait combien de temps il nous reste. » Il dit, « Vivez chaque jour comme si c'était le dernier jour, car un jour ce sera votre dernier. » Alors, on doit vivre chaque jour comme si c'est le dernier. Alors, le temps que nous avons sur cette terre ne pourra jamais être répété. Nous sommes à notre meilleur, je crois, quand nous utilisons notre temps comme le Seigneur veut que nous le fassions, qu'on marche avec lui. Et de bien finir. J'aimerais juste terminer avec une couple de trois points ici, que j'ai lu, un article que j'ai lu la semaine passée sur la mort. Ce n'est pas un auteur chrétien, mais j'ai pensé qu'on va ramener ça aux Écritures, mais j'ai pensé que c'était très bien de bien finir. C'est un docteur qui étudie les gens qui meurent, et c'est un docteur bien connu qui dit que la plupart du monde qui meurt avec trois regrets communs. Trois regrets communs. Je dis, ah, c'est intéressant, c'est trois regrets communs. Populaire, si vous voulez. Alors, j'ai lu l'article. Les Écritures vont nous aider, naturellement, avec sa grâce, d'éviter ces choses-là, mais la première chose, c'est ne pas le regret, c'est de ne pas avoir passé assez de temps avec ses proches. De ne pas avoir passé du temps avec ses proches. Nous autres, c'est dur parce que nos enfants sont tout loin. Mais dans la parabole du fils perdu, le frère le plus vieux est jaloux et rancunieux contre son frère qui a gaspillé son héritage et sa vie. Mais il aurait mieux valu pour ce frère qu'il pardonne, comme son père a pardonné son fils le plus jeune. Le frère le plus vieux aurait dû pardonner son frère parce qu'il aurait sauvé beaucoup de rancune, beaucoup d'amertume, beaucoup de colère dans sa vie. Pourquoi perdre du temps précieux avec nos proches? Pourquoi perdre du temps précieux avec l'Église, avec les frères et sœurs, avec les connaissances, avec ceux qu'on connaît, avec spécialement ceux de la maison de Dieu? C'est applicable à nous à cause de notre orgueil ou à cause de notre colère ou à cause que quelque chose est arrivé puis on est fâché contre une personne puis on garde ça. Pardonner celui qui vous a blessé, c'est une chose qui est saine, c'est sain. Ça nous fait du bien, ça nous guérit. Et alors, j'ai trouvé ça intéressant. Dieu, vous savez que Dieu valorise les relations extrêmement, c'est sa passion. Il valorise sa relation personnelle avec vous. Et je crois que de même, nous autres aussi, nous devrions valoriser nos relations. Éphésiens 4 nous dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, ça veut dire automatiquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Alors, le premier point ici que le docteur disait, c'est, qu'est-ce qui est plus important dans la vie? C'est nos relations. Relations. Les uns avec les autres. L'importance de cela. Parce que ça va être un regret un jour. Deuxième regret commun, c'est d'avoir passé trop de temps au travail. Mais pour la majorité de vous, je pense que vous êtes retraités. Mais pour ceux qui ne sont pas retraités, passez trop de temps au travail. Il y a un dicton qui dit, vous ne voyez jamais un camion de déménagement suivre un corbillard. Hein? Travailler est important. La Bible nous dit de travailler. Si on ne travaille pas, on ne devrait pas manger. C'est important de travailler. Mais mieux travailler pour vivre et non vivre pour travailler. Hein? Parce que c'est une chose nécessaire. Moïse est un bon exemple. Il faisait tout lui-même. Et son beau-père lui a conseillé de déléguer son travail. Il était occupé du matin au soir. Lorsque notre travail déstabilise notre santé ou déstabilise notre famille, c'est un signe. On travaille trop. Alors, c'est le deuxième regret d'une personne qui est en train de mourir, de dire, j'ai donné trop de ma vie à travailler, pas assez pour mes relations. Troisième chose, troisième regret, c'est ne pas avoir poursuivi ses passions. Ne pas avoir poursuivi ses passions. Il y a quelqu'un, un enfant qui m'a demandé à un moment donné, c'est quoi ta passion, pasteur? C'est quoi ma passion? C'est quoi ta passion? C'est Christ, n'est-ce pas? Notre passion, c'est Jésus. Oui, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, c'est quoi que tu aimes le plus dans le monde? Jésus! Mais pas avoir poursuivi nos passions. Dans le monde, les gens ont certaines passions à poursuivre, mais c'est facile pour nous. C'est facile pour les chrétiens. Notre passion, c'est Christ. Matthieu 6, 33, Jésus a dit, « Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu. » Toutes ces choses, toutes ces autres passions, Dieu va les pourvoir pour vous. Amen. Jésus sait comment satisfaire nos désirs les plus profonds et promet pour vous et moi une vie abondante, malgré ce monde, malgré les difficultés, les épreuves dans votre vie, dans notre vie. Il nous promet une vie satisfaisante. Alors, Jésus avait aucun regret. Vous dites, oui, mais Jésus, c'est Dieu. C'est vrai. Mais Jésus avait aucun regret. Et il a accompli l'œuvre de son Père et il pouvait dire, tout est accompli. Vous et moi, nous pouvons aussi dire, comme l'apôtre Paul, et bien finir notre vie. J'ai combattu le bon combat, Paul dit. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là au tribunal de Christ. Et il continue à dire, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, encore une fois. Alors, soyez sûrs et certains que Dieu est là pour nous et l'importance, c'est de bien finir, de combattre le bon combat et d'achever la course dans le Seigneur. Amen. J'ai été peut-être un petit peu plus long ce matin, mais une dernière pensée avant de terminer. Apocalypse 21, 4 nous dit, « Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, la mort ne sera plus. » Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Je vais vous raconter une histoire d'un jeune enfant qui est en train de jouer dans sa cour, tandis que sa mère regarde, sur son balcon, près de la maison, mais elle regarde son enfant, puis son enfant, à un moment donné, il s'enfarge, puis il tombe assez dur sur le sol. Une fraction de seconde après vient, qu'est-ce que vous vous attendez? Hein? Les pleurs. Les pleurs viennent, les cris, vient l'angoisse, la douleur, c'est fait mal aux genoux, c'est fait mal à la tête, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux choses qui suivent à ce moment-là. Premièrement, vous savez fort bien que la mère, La mère qui est là, elle court vers son enfant et l'enfant court vers sa mère. Hein? C'est naturel. Vous ne faites plus ça maintenant. Hein? Hein? Y en a-tu des hommes qui font ça, qui courent à leur maman à chaque fois qu'il y a un trouble? J'espère que non. Hein? Mais il y avait un temps de ce qu'on faisait ça. Hein? Et on courait vers notre maman parce qu'on savait que notre maman avait une grande compassion, un grand amour pour nous autres. Dans le temps normal, c'est comme ça. Et alors, la réaction, c'est que l'amour de la mère se répand comme un baume sur la peur de l'enfant, sur la douleur de son enfant. Et d'une certaine manière, d'une certaine façon, toute notre vie, frères et sœurs, toute notre vie est destinée à la même union éternelle avec Christ. Toute notre vie est destinée à ça. Ou notre vie d'angoisse, notre vie de souffrance rencontrera l'amour de Dieu au ciel finalement et qu'il va pouvoir nous consoler. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il va essuyer toute larme. Parce que cette histoire de l'enfant qui pleure, la mère qui soulage son enfant, c'est qu'est-ce que Jésus va faire pour vous et moi? Que nous le sachions ou non, le désir de notre cœur est vraiment de trouver l'amour, de trouver le réconfort, de trouver la sécurité qui est trouvée dans la présence de Dieu. Et dans l'au-delà, frères et sœurs, nous le recevrons. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et nous allons être réconfortés de sa gloire, de sa personne. Plus de chagrin, plus de pleurs, ni de douleur. Ce que le Seigneur a préparé pour ceux qui l'aiment est la consolation finale. Mais on peut dire la consommation finale de son amour. La consommation finale de son amour répandu sur nous. Remercions-le aujourd'hui pour la joie qui nous attend au ciel. Avez-vous hâte? Moi, j'ai hâte. Hâte de recevoir ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Alléluia. On demande-tu à Frank de venir? Et j'aimerais terminer avec un cantique. Je ne sais pas si vous connaissez, probablement vous connaissez, les anciens en tout cas connaissent ce cantique. Oui, c'est le ciel que Jésus donne.